Bonsoir. Alors, c'est parti pour une nouvelle émission des Amis d'Orwell. Et c'est un peu particulier parce que du coup, pour le coup, c'est moi qui ouvre la séance. On essaye de se remettre un peu de nos émotions ici, donc sur Radio Libertaire avec les Amis d'Orwell. Et on vous a préparé deux choses en fait. Une petite intro parce que du coup là on est un peu sous le choc. J'imagine que vous avez dû peut-être avoir cette information ou pas, mais ça nous paraissait important d'en parler. On a des copains qui occupaient un bois, voire peut-être qu'ils l'occupent encore. C'est les dernières informations, rebondissements dans la Meuse contre le projet CIGEO et plus particulièrement donc à Bure, CIGEO qui est un projet de poubelle nucléaire. Donc on est aux Amis d'Orwell, mais on n'est pas tout seul non plus parce que ici on a pas mal de camarades.
Il y a beaucoup de monde, j'ai jamais vu autant de monde.
Ouais. Voilà, donc il y a Jet déjà.
Ça fait plaisir. Et en fait,
parce que à la base on n'avait pas prévu de parler de ça, mais encore une fois, bienvenue en Macronie. On se retrouve à nouveau complètement atterré face à la violence de l'État qui décide de condamner toute contestation dans la Meuse. Mais voilà, la violence de l'État, elle est aussi ailleurs. Et autour de nous, on a des gens qui passent pas mal de temps en ce moment et qui dorment d'ailleurs à l'université Paris 8.
De Saint-Denis.
Voilà, donc c'est une université. Et le bâtiment A est occupé donc par des collectifs de migrants exilés avec des soutiens. Donc on va juste, histoire que vous vous rendiez compte aussi de combien on est ici dans le studio, faire un petit tour de table. Donc si chacun peut se présenter, voilà.
Alors moi c'est Traoré, occupant Paris 8.
Ok.
Ali Ibrahim Ahmed, notamment Tosmin Fijamet Paris 8.
Donc je m'appelle Ibrahim Ahmed et je fais partie des occupants de Paris 8. Et moi je suis le traducteur, je m'appelle Oussam.
Omar Hussein, من المعتصمين في جامعة باريس.
Je m'appelle Omar Hussein, je fais aussi partie des occupants de Paris 8 et moi c'est Anna, je fais la traduction.
Je m'appelle Adam Haroun, je fais partie des occupants de Paris 8.
Okay. Il y a encore pas mal de monde qui sont encore dans le couloir, qui pourront éventuellement reprendre le micro tout à l'heure.
Ouais, c'est vrai qu'on a été surpris. En même temps, c'est ça qui est chouette de voir autant de monde en fait présent, qui ont répondu à notre petite sollicitation de venir. Voilà, vous proposez de venir raconter un peu ce qui se passe à Paris 8. Et on a aussi avec nous donc une autre personne qui va se présenter aussi.
Je m'appelle Lucie Simon et je suis avocate spécialisée en droit des étrangers.
Voilà, parce que dans les deux autres, enfin le deuxième cadeau fait par le gouvernement cette semaine, c'est un petit projet de loi qui est passé donc ce mercredi en Conseil des ministres, donc la loi qui s'appelle Asile et Immigration. Et en fait, ça a renforcé d'autant plus notre envie de donner le micro en fait à ces exilés, en fait à ces migrants, voilà. On va peut-être juste commencer par on commencera après du coup pour parler un peu de cette loi avant de rentrer dans cette occupation. Mais avant, peut-être juste un petit point quand même sur ce qui se passe.
Ouais, c'est vrai qu'on pouvait pas aussi ne pas en parler parce que c'est vrai qu'à dans les Amis d'Orwell, on a très souvent parlé de ce qui se passe dans les terrains, les zones occupées. Et là, c'est vrai qu'à Bure, il y avait donc un fameux bois, le bois Le Jus, qui est occupé depuis l'été 2016. Et là, cette semaine, là, à 6h du matin, voilà, les gendarmes, ils étaient 500, c'est ce qu'on raconte partout. Ils sont venus déloger les occupants. Il y avait des dizaines, une petite vingtaine, je crois, de personnes. Il fait très froid en ce moment. Donc voilà, manu militari, hein, comme à leur habitude, pour exécuter, soi-disant, une décision d'expulsion qui date de janvier 2017. Donc il y a pas mal d'irrégularités qu'on a que les opposants n'ont pas encore complètement réussi à contrer. Il y a des recours qui se préparent. Oui. Mais,
il y a eu un dépôt de plainte aussi, je crois.
Oui, il y a eu, parce que juste après l'évacuation du bois, il y a eu donc la fameuse maison de résistance à Bure qui a été perquisitionnée après des prétextes de blocage de route et de projectiles, évidemment. Et là, donc, il y a eu des gardes à vue. Il y en a eu 7 en tout. Et il y en a eu 5 qui sont bien terminées.
Et donc c'est la seconde perquisition en très peu de temps, c'est ça, non?
Ouais, parce que le 20 septembre, il y avait déjà une grosse perquisition. Donc on a aussi parlé dans les Amis d'Orval, là aussi ça fait pas mal de bruit. Et donc là, la maison encore s'est fait reperquisitionner, c'était quand même très chaotique. Et je pense que là aussi, il y a pas mal de nullités qu'on pourra ça passera évidemment dans les jours qui viennent, qui seront sûrement au moins produites par les avocats. Et il se trouve que dans la journée, en fait, il y avait déjà des personnes qui avaient réussi à regrimper dans les arbres à 20 mètres de haut pour réoccuper des plateformes. Donc c'est à la fois, encore une fois, la répression qui frappe en plein cœur, mais en même temps toujours beaucoup d'espoir, parce que il y a toujours des gens qui sont là. Il y a beaucoup de soutien. Il y a eu, je crois, 80 rendez-vous de soutien le soir même. À Paris, c'était à Saint-Michel. Et donc voilà, on voulait évoquer ça pour commencer l'émission. On va pas en faire des tonnes non plus, parce que voilà, on en reparle. On est vraiment à chaud là, ça s'est passé hier matin.
Ouais, peut-être rappeler qu'en effet, là c'est la troisième perquisition, parce qu'il y avait eu aussi un autre lieu à Mandre qui avait été perquisitionné. Ouais. Je crois que c'était courant décembre. Et en gros, on sent que l'État a clairement décidé de pas laisser les gens. Tranquille, en fait, d'être vraiment dans une logique de harcèlement et d'agression, en rentrant dans les maisons, en réveillant les gens à 6h du mat, en brisant les portes, les fenêtres, etc. Et donc, là, en gros, les personnes sur place,
ont lancé plusieurs... Quand tu parles de ça, on a l'impression de décrire justement ce qui se passe tous les jours chez les migrants, quoi. Évacuation, répression, harcèlement, et puis on rentre, on détruit les choses juste pour choper des personnes, et puis
Après, j'ai l'impression qu'il y a pas la même criminalisation, et on va en parler beaucoup, mais il y a une judiciarisation des militants, et puis on l'a vu là lors du dernier procès à Bar-le-Duc. Je crois qu'il y en a un autre en mars aussi. Il y a vraiment une accélération. Là, tu parlais de 3 perquisitions, et c'est vrai que moi j'imagine qu'il y a un petit peu une peur qu'il y ait un Notre-Dame-des-Landes bis et donc une volonté de l'État tout-puissant de taper du poing sur la table et de dire je suis très fort et je ne vous laisserai pas faire, mais qui aboutit du coup à des procès à répétition. Et on l'a vu encore une fois sur le dernier procès des deux Christian, avec presque rien dans le dossier.
Faut le rappeler, c'est justement ta présence est intéressante, parce que toi tu as plaidé, tu as fait partie des 3 avocates qui ont plaidé pour défendre 2 militants historiques qui se sont fait poursuivre parce qu'ils ont cassé le mur, le fameux mur de l'été 2016, qui avait été donc pété à la suite d'une première occupation, qui avait été expulsée, etc. Et il s'est passé, oui, il y a carrément tous les mois maintenant un procès par le Duc.
Et ce qui m'avait vraiment frappé sur cette affaire-là en particulier, parce que je n'ai pas vu les autres, c'était le fait que, enfin, en termes d'enquête, l'enquête était quand même très 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 légère.
Ouais, bâclée,
les investigations
presque.
Étaient, oui, presque bâclées. Et donc on avait vraiment le sentiment, et je me répète peut-être un peu, mais d'avoir un procureur de la République qui voulait montrer qu'il agissait, mais qui se donnait pas vraiment les moyens d'agir judiciairement parlant pour être efficace, entre guillemets, mais donc était vraiment dans quelque chose, dans de l'esbroufe un petit peu judiciaire, en lançant cette procédure et sans la faire, oui, de manière un minimum correct judiciairement parlant. Et c'est pour ça que je suis assez positive sur le délibéré qui aura lieu en avril. Mais
on espère. Après, concrètement, l'ANDRA, qui est donc l'Agence Nationale de Traitement des Déchets Radioactifs, et qui essaye de lancer...
De traitement, moi je dis digestion. Bon.
Digestion.
Chargé de digérer pour nous pendant des millions d'années.
Mais en gros, ils sont installés dans la Meuse depuis maintenant une vingtaine d'années et ils ont des pratiques qui sont quand même assez... assez j'ai envie de dire légère, mais enfin voilà, où en gros on sent qu'ils font un peu fi des procédures classiques, etc. Parce que ça, on l'avait vu, et c'est une des premières choses qui a été contestée, c'est en gros le et la propriété du bois, le jus, et le début des travaux en fait, et qui a amené à l'occupation du bois, et donc le bois était occupé depuis un an et demi. Et donc voilà, donc en gros, on vous invite vraiment à suivre un peu l'actualité, le site à suivre. Il y en a, enfin il y en a deux d'ailleurs. Il y a vmc.camp qui sont les gens sur place, et le site de Burstop, qui est un peu les associations qui luttent sur place avec le réseau Sortir du Nucléaire.
Parce qu'il faut rappeler que cette évacuation s'est quand même faite en fait comme une sorte d'escorte au ministre Le Cornu, qui débarquait dans la Meuse pour aller vendre le projet CIGEO aux associations, aux populations en fait. Et c'est hallucinant, c'est quand même la première fois qu'on parle de concertation en envoyant les gendarmes 500 GM donc avec, en pleine nuit, avec avec les matraques, les lacrymaux, et derrière évidemment des gardes à vue. Donc rapidement, on a parlé de 7 gardes à vue, il y en a 2 qui sont mal terminées parce que les 2 personnes sont en préventive pour 1 mois, c'est-à-dire qu'en fait c'est un outrage. Donc c'est des personnes qui ont n'ont pas voulu jouer le jeu de la justice, et là à chaque fois qu'on ne passe en identité, évidemment qu'on est rattrapé par une affaire simple de non-respect d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure de sursis, blâme, on va direct en tôle. C'était donc une comparution immédiate, exactement comme beaucoup de gens connaissent, soit dans les mouvements sociaux, etc. Et là, c'est implacable, quoi. Donc, deux personnes qui dorment en prison pour 1 mois. Voilà. Voilà l'état de la répression anti-nucléaire.
J'imagine qu'ils ont fait une demande de délai, une demande de renvoi sur leur comparution immédiate.
Les avocats ont demandé des renvois, sauf qu'il n'y a pas de garantie suffisante.
Ils sont partis au trou.
Ça, c'est classique. Mmh. Mais c'est vrai que franchement, pour une telle qualification, c'est hyper rare qu'on mette les gens comme ça en détention, sauf évidemment dans les quartiers, auprès des personnes étrangères. Ça, c'est évidemment assez courante, mais là, c'est vrai que...
Ouais. Enfin, sans faire de parallèle, parce que du coup, c'est aussi... Enfin, en gros, c'est un peu ce qu'on a vu, et là, il y a aussi une manifestation qui se profile là bientôt le 17 mars, qui est contre les violences policières. Ouais. C'est en gros les logiques de la répression policière qui, on le voit en fait, en gros, sur les questions de fond, l'ANDRA perd quasi systématiquement les procès qui sont... provoqués par l'opposition par les opposants, et d'un autre côté va aller faire de la répression sur des choses comme de la refus de signalétique, en effet outrage ou insulte à agent, etc. Et en fait, quand on regarde en détail, c'est juste des gens qui sont agressés par la police et qui se défendent parce qu'elles estiment que voilà, il y a une dignité humaine, il y a des droits humains, et qu'on a le droit de protester, on a le droit de se défendre aussi pour nos vies et pour ce qu'on a envie de faire de nos vies et de nos espaces de vie. Donc voilà, et du coup, des gens qui s'opposent un peu, beaucoup même, à l'entreprise nucléaire, qui ne se limite pas à Bure et la Meuse, qui en gros, on le sait bien, ça c'est clair, le site il a été choisi parce qu'il y a très peu de personnes qui habitent ici, mais en gros, s'opposer à la poubelle nucléaire là-bas, c'est s'opposer à toute l'industrie du nucléaire, qui partent, donc c'est de toutes les centrales, en commençant par l'extraction.
Ça commence au Niger et en Mauritanie. Hein,
exactement ça.
L'uranium qui détruit évidemment donc, la santé, l'environnement, qui casse tout et qui commence en Afrique.
Voilà, donc du coup, il y a des appels qui partent de là-bas pour appel à soutien, ramener du matériel, etc. Parce qu'il y a du coup la maison de résistance à retaper. Il y a un week-end qui était prévu le 3 et 4 mars l'occupation qui est maintenu, bien évidemment, avec des rencontres intercomités, parce qu'il y a de plus en plus de comités qui sont en train de se monter un peu partout en France et à l'étranger, à l'international. En fait, il y a des messages de soutien d'un peu partout dans le monde. Donc voilà, le site c'est vmc.camp, il y a le site de Burstop, donc la coordination des associations, et puis il y a un comité de soutien à Paris, en Ile-de-France, on en a parlé déjà quelques fois dans cette émission. La prochaine réunion c'est jeudi, qui arrive à 19h au centre social autogéré d'Ivry, 37 rue Marceau, et en fait il y a aussi du coup un appel, un bruit comme ça qui est parti.
Un bruit qui court.
Voilà, mardi prochain, parce que c'est mardi gras et qu'on a décidé de faire sa fête à l'ANDRA.
Non, c'est pas mardi gras, mais en fait, on s'en fout,
mais
c'est mardi.
Fout. Voilà.
On décide que c'est tous les mardis, c'est mardi gras pour l'ANDRA. Voilà. Voilà, et puis on.
Et donc voilà, donc du coup, on vous invite à vous tenir un peu au courant. Les informations, elles seront indiquées sur Paris Démosphère, sur Paris Lutte Info. Voilà. Voilà, voilà. Et donc ça, c'était une petite intro un peu longue.
D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a parlé de nucléaire, de radioactif, et Oussam, il s'est étranglé, quoi. Comme si déjà, tu n'étais pas allergique. Peut-être que tu es allergique aux radionucléides, tu vois, virtuels ou en suspens. Hein, ça doit être ça, je sais pas si...
Une allergie à la politique extérieure française.
Ouais. C'est ça, dès qu'on parle du nucléaire, tu sais, toi, tu sais, elle commence en Afrique, donc déjà ça te met le bourdon. Ouais. Donc ouais, donc là, on va commencer la deuxième partie de l'émission, et je crois qu'on t'es allé rencontrer, t'es allé sur place, et tu nous as fait un petit son, un petit sonore,
ouais, comme on dit en radio. Ouais, 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 enfin, moi, je suis allée, je me suis rendue directement à l'université de Paris 8.
Depuis combien de temps, d'ailleurs, qu'il y a l'occupation?
31 janvier. Mais ouais. Avant ça, en fait, moi je me disais ça peut être bien parce que du coup là, en gros, j'ai rencontré Asna qui va nous raconter un peu, qui m'a raconté. Donc du coup, on va l'entendre tout à l'heure, qui en fait se trouvait dans la cuisine collective du bâtiment A de l'université. Mais juste avant ça, en fait, parce que c'est pas complètement en lien, parce que l'occupation elle a commencé au 31 janvier et qu'elle dénonce de toute façon la situation. Enfin, c'est des gens qui subissent en fait des maltraitances de la part de l'État et de toutes les institutions qui l'incarnent parce que elles sont venues ici en France pour essayer de trouver un endroit où elles puissent se reposer, qu'elles puissent en gros voilà, elles viennent de pays avec des conditions de vie des pays en crise, donc ça peut-être qu'ils nous raconteront ça au cours de l'émission. Mais enfin voilà, c'est pas directement en lien, mais mercredi, donc il y a un projet de loi qui a été présenté par notre ministre de l'Intérieur,
de l'immigration et de l'identité nationale, non,
c'est pas ça. Ouais, mais je sais pas, mais lui il a tous les noms,
il a pas ça comme enfin,
voilà. Mais c'est voilà, c'est en gros la mode Macron, c'est-à-dire on fait tout beau, tout gentil vu de l'extérieur, et en fait derrière on fait passer des projets de loi assez monstrueux.
Mais la fameuse circulaire déjà en janvier là qui a commencé à mettre le feu aux poudres, hein, la fameuse circulaire qui incite la préfecture à aller compter les 100 pas
dans les centres d'hébergement d'urgence.
Ouais. Oui, il y a ce truc où les personnes qui sont dans les centres d'hébergement d'urgence se trouvent aussi un peu certaines se retrouvent déboutées du droit d'asile, et donc du coup c'est vrai que c'est pratique parce qu'elles sont juste à portée de bras en fait, parce qu'elles sont bien au chaud. Hébergé par des
d'ailleurs,
associations.
T'as vu le Conseil d'État qui porte très bien son nom, a envoyé bouler les assos qui voulaient invalider les circulaires.
Oui, mais malgré tout, il a quand même considérablement restreint la circulaire, et il a mis, enfin, pour avoir lu la décision avant-hier, je trouve qu'il a posé des bases assez intéressantes, mais malheureusement, cette circulaire va être entérinée dans le projet de loi s'il est voté tel qu'il est actuellement.
Ah oui, d'accord, ok.
Donc du coup, tu peux peut-être, Lucie, nous faire un petit... nous peindre un peu cette situation
qui
nous attend.
C'est pas du très joli. Déjà, peut-être rebondir un petit peu sur tout ce qui est dit par le gouvernement et par les députés d'En Marche. L'idée principale de cette nouvelle loi, de ce projet de loi, serait de dire, en fait, on va accélérer les procédures de demande d'asile. Donc, en soi, pourquoi pas accélérer les procédures de demande d'asile? Je pense que les personnes qui sont autour de la table et qui sont dans certaines de ces procédures trouvent ces procédures trop longues et ne savent même pas où elles en sont et aimeraient que ça aille plus vite. Le problème, c'est qu'en fait, cette accélération qui nous est proposée, elle est totalement factice et elle est même vraiment hypocrite, parce qu'elle va finalement aller à l'encontre des garanties et des droits des personnes, et donc c'est accélérer pour mieux expulser. 2-3 points sur cette idée d'accélération. Alors déjà, une base qui me semble très importante. Il y a des dispositions dans la loi, moi, que je défends tous les jours devant les tribunaux administratifs, et qui nous disent sur l'enregistrement de la demande d'asile que c'est entre 3 et 10 jours ouvrés. Donc quand la personne se présente à une préfecture, etc., son enregistrement de demande d'asile doit être fait dans les 3 jours normalement, et 10 jours s'il y a vraiment un afflux exceptionnel dans les préfectures. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de monde et il n'y a pas assez de moyens. Donc ça, ce n'est pas appliqué. Et pourtant, ça existe. Et là, on vient vous faire une loi en plus pour restreindre, on dit, les délais, alors que ceux qui sont déjà en place ne sont pas appliqués. Et bien sûr, à aucun moment dans cette loi, on va prévoir plus d'argent et plus de moyens pour faire que les délais qui existent déjà soient appliqués. Donc en fait, cette restriction des délais, elle va passer sur quel point ? Tout d'abord, et ça, ça me semble hyper important, vous avez dû en entendre parler, l'idée que on va passer de 120 jours à 90 jours pour le placement en procédure accélérée. Quand on demande l'asile, on peut être placé dans trois types de procédures. La procédure Dublin, je ne sais pas si c'est l'objet aujourd'hui dont on va le plus parler, même si c'est un des plus intéressants. Il y a la procédure Dublin, il y a la procédure normale d'asile et il y a la procédure accélérée. Les personnes qui sont placées en procédure accélérée, c'est notamment parce que soit ils ont fraudé et avec cette idée de s'ils n'ont pas fait leur première demande d'asile dans les 120 jours de leur arrivée, eh ben, ils vont être placés en procédure accélérée. Quelles sont les conséquences de ce placement ? Ben, elles sont énormes en fait pour le demandeur d'asile parce que bien sûr l'instruction va aller plus vite, mais elle va aller plus vite au détriment de la qualité en fait de l'écoute et de l'instruction parce que le demandeur d'asile il va se retrouver devant un seul juge s'il conteste son refus de demande d'asile de protection internationale. Donc un seul juge qui va écouter sa demande extrêmement lapidairement. Alors que normalement, il y a 4 personnes quand on passe devant la Cour nationale du droit d'asile. Et très souvent, les personnes qui sont placées en procédure accélérée perdent totalement les conditions matérielles d'accueil. Les conditions matérielles d'accueil, ça consiste en l'ADA, donc l'aide aux demandeurs, l'allocation aux demandeurs d'asile, c'est de l'argent, et un hébergement. Donc vraiment, cette restriction de 120 jours à 90 jours, elle est drastique et elle est honteuse, parce que l'idée, c'est vraiment qu'il y ait de moins en moins de personnes qui puissent demander l'asile et qui soient traitées hyper rapidement.
Donc le rapidement, c'est expulser rapidement, en fait.
Et là, je vais y venir, bien, parce que c'est ça qui se cache derrière, ça va être bien sûr les expulser plus rapidement. Il y a aussi un autre cas qui est un autre point de la loi dont vous avez dû encore une fois entendre beaucoup parler, c'est que normalement quand on reçoit un rejet de l'OFPRA, quand on a demandé l'asile et qu'on reçoit un rejet, on a un mois pour faire un recours contre ce rejet et aller devant la Cour nationale du droit d'asile. Alors de un mois, on va passer à 15 jours. C'est hallucinant. C'est hallucinant parce qu'il faut quand même avoir en tête, et j'espère que les personnes pourront nous offrir aujourd'hui leur témoignage sur ces points-là, que quand on est demandeur d'asile et qu'on débarque en France, on est épuisé, on est traumatisé. Souvent, on ne parle pas la langue, on vit dans la rue et on n'a pas tous les contacts. Déjà, comprendre comment marche une procédure d'asile aujourd'hui, ben, ça prend beaucoup de temps. Moi, je suis avocate, il y a plein de points que je ne comprends pas au niveau des plateformes d'accueil des demandeurs d'asile, etc. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble avec les associations, parce qu'elles ont d'autres connaissances que nous, avocats, on n'a pas, clairement. Donc, comprendre comment on va pouvoir déposer l'asile, à quelle porte il faut toquer, et puis ensuite rédiger sa demande d'asile. Rédiger pour qu'elle ait des chances, justement, d'être entendue et d'aboutir par l'octroi d'une protection internationale. Et donc, en réduisant ces délais, que ce soit le délai de recours contre la décision de l'OFPRA, ou que ce soit le délai pour passer en procédure normale et pas accélérée, ce que fait en fait ce projet de loi, c'est de limiter considérablement l'asile et de ne prendre aucunement en compte l'humanité de ces personnes-là. Parce qu'on ne peut pas, et j'en suis convaincue, déposer l'asile en 90 jours. On ne peut pas aujourd'hui, sans être hébergé, avec tous les problèmes qu'il y a d'hébergement, etc. Oui, vas-y.
Oui, c'est souvent des démarches qui demandent d'avoir des papiers, etc. Et tout, et c'est des personnes, et on le sait, parce que la répression aux frontières, elle est juste inhumaine. C'est des personnes qui arrivent souvent en France sans papiers et qui enfin sans papier justificatif d'identité, parce qu'elles en ont une, mais au vu des états, que ce soit celui d'où elles viennent ou celui où elles arrivent, elles n'ont pas de justificatif d'identité.
Et puis elles n'ont même pas de logement. Moi, tous les jours, je défends des gens qui sont là depuis 3 mois, des femmes avec des enfants et qui dorment sous les ponts. Donc à quel moment elles vont pouvoir se poser pour écrire pourquoi elles ont fui leur pays en français, en plus, parce que devant l'OFPRA, enfin, quand on fait une demande d'asile, elle doit être faite en français. Donc tout ça prend beaucoup de temps. Trouver un avocat pour faire un recours contre la décision de rejet de l'OFPRA, ça prend beaucoup de temps. Et faire ce recours, Si on veut bien le faire, ça prend du temps aussi. Et aujourd'hui, on se retrouve en plus, et j'en ai fait l'expérience encore ce matin, à devoir déjà, alors que cette loi n'est pas passée, faire des recours vraiment à la va-vite, parce qu'il y a énormément de demandes et qu'il faut bien essayer tant bien que mal de défendre ces gens. Et quand le recours est sommaire, parce que c'était juste pour rentrer dans les délais, on se prend des ordonnances de tri à la CNDA, 30% d'ordonnances de tri, quand le recours n'est pas assez détaillé. Et c'est un premier recours, hein, parce que derrière, on fait des recours complémentaires.
Donc, c'est quoi exactement une ordonnance de tri juste pour...
Une ordonnance de tri, c'est en fait, votre cours ne va pas être examiné. Tout simplement, vous n'allez même pas aller à l'audience parce qu'un juge va estimer qu'il n'y a pas de moyens sérieux.
Que le dossier n'est pas assez.
Donc, ça, c'est, enfin, c'est pas nouveau, mais c'est une pratique qui ne cesse de croître ces temps-ci. En 2 mois, on a vu les ordonnances de tri vraiment exploser au niveau de la Cour nationale du droit d'asile. Quand je vous dis, enfin, on m'a donné ce chiffre, je ne sais pas jusqu'à quel point il est véridique, mais il me semble l'être. On est à 30% d'ordonnances de tri sur tous les recours. C'est énorme. C'est absolument énorme. Et aussi un point hyper important toujours dans ces délais, c'est celui du recours suspensif. En fait, en 2012, on s'était fait vraiment taper sur les doigts par la Cour de justice de l'Union européenne, qui avait dit c'est pas possible à France, parce que quand les personnes sont en procédure accélérée et qu'elles font un recours contre la demande de rejet OFPRA, ce recours n'est pas suspensif de l'éloignement. Autrement dit, les personnes peuvent être expulsées. Et donc, quid du droit au procès équitable, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, etc., de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Du coup, 2012, on fait un projet de loi pour se mettre en fait en conformité avec les instances européennes, que ce soit la CEDH ou la CJUE, et on rend suspensif le recours. Et bien là, on revient là-dessus. Donc, non seulement on est débile et on va se faire taper sur les doigts, ou du moins je l'espère, mais en plus, c'est quand même, enfin, c'est vraiment une atteinte au droit de la défense et au droit à un procès effectif et équitable. C'est une honte. Et vous allez avoir donc plein de nouveaux cas. Par exemple, si vous venez d'un pays dit sûr, alors c'est très vague, hein, un pays dit sûr, parce qu'il y a une liste qui est faite toutes les années, je crois, ou tous les 3 ans, je ne sais plus, sur les pays dits sûrs. Vous pouvez, enfin, ce recours ne sera pas suspensif de votre obligation de quitter le territoire français. Alors, la loi prévoit quand même que vous pouvez demander qu'il soit suspensif au tribunal administratif, mais le tribunal administratif n'est pas obligé de vous l'accorder. Et encore faut-il savoir qu'on a ce droit-là de demander le caractère suspensif du recours. Donc ça peut être un petit peu technique, mais c'est un point majeur. Et du coup, toute cette logique-là, c'est fait pour, bien sûr, plus expulser. Et dans cette idée d'expulser de plus en plus, on va aussi allonger la durée de rétention. Donc ça, c'est un des points...
La durée d'enfermement. Disons les mots, parce que rétention, c'est toujours encore un terme novelant qu'on n'arrive pas à évacuer, même de notre propre vocabulaire. Quoi. Donc c'est un enfermement, quoi, pour un délit zéro, ou celui de traverser des frontières pour assurer sa sécurité...
Et jusqu'alors, la durée maximale, c'était 45 jours. Là, elle va pouvoir monter à 135 jours maximum et 105 jours pour les personnes dublinées. C'est un enfermement, comme tu le dis très justement. C'est des prisons qui ne portent pas le nom de prison, mais qui en sont. C'est une privation de liberté, donc c'est grave. Et en plus, c'est totalement inefficace. Ça, c'est la CIMAD qui l'a beaucoup porté en disant qu'en fait... 97% selon leurs chiffres, je crois, des reconduites de toute façon à la frontière, des transferts, etc., se font dans les 12 premiers jours de l'enfermement. Donc porter jusqu'à 90 jours, voire 135 jours, ça n'a aucun sens, si ce n'est celui de façon assez forte et assez démagogique, dire voilà, on va plus expulser, on va criminaliser encore plus les personnes. Et du coup, dernier point sur, même s'il y a énormément de choses à dire que j'ai pas abordé, hein, parce que c'est truffé de régression au niveau des droits fondamentaux, ce projet de loi, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est celui de la criminalisation. On en parlait sur Bure En parlant, du coup, j'ai insisté plus sur le terme de judiciarisation. Mais là, par contre, on est clairement dans la criminalisation des personnes étrangères. Encore une fois, en 2012, on s'était fait taper sur les doigts parce que, et c'était encore une fois par l'Europe, on nous avait dit, voilà, le fait d'être en situation irrégulière n'est pas un délit.
N'est pas un délit.
Donc, vous ne pouvez pas mettre en garde à vue les personnes en situation irrégulière. Du coup, on avait inventé un nouveau truc qui s'appelle la retenue administrative. Cette retenue administrative, elle était aux fins de vérification d'identité. Et l'idée, c'était de dire, voilà, ça va durer que 16 heures et c'est juste pour vérifier l'identité de la personne. Bon, on sait très bien que ça pouvait amener à une rétention, un placement, un enfermement et une expulsion. Mais elle était de 16 heures. Là, on revient en fait là-dessus. On est totalement hypocrite une fois de plus. Je crois que c'est le mot d'ordre de ce projet de loi. On dit, ben, en fait, ça reste une retenue et elle va passer à 24 heures.
Donc c'est une garde à vue, quoi.
C'est une garde à vue, mais qui n'a pas...
les droits afférents.
Exactement. Et là, je voulais citer deux, trois trucs qui font vraiment froid dans le dos. C'est que pendant cette retenue, on va pouvoir demander, on va pouvoir fouiller les bagages de la personne pour vérifier si elle a le droit au séjour ou pas. On va pouvoir lui prendre ses empreintes ainsi que la photographier. Et si cette personne refuse, eh bien, ce sera un délit.
Comme le refus de prélèvement ADN. Ouais.
Donc on est clairement dans une pénalisation de
la présence d'une personne,
de la simple présence sans papier
sur le territoire. Voilà.
Ouais, il y a de quoi vraiment.
Bienvenue en France.
Comme tu disais, ça fait vraiment froid dans le dos. Enfin, il y a de quoi être en colère quand on entend ça. Et encore, moi je me dis, enfin, je le vis de façon complètement extérieure en fait parce que c'est pas du tout ma situation de vie. Et du coup, c'est pour ça que ça nous paraissait, nous, aux Amis d'Orwell, important du coup d'inviter des gens qui, en fait, face à cette situation, face à cette criminalisation déjà en cours, en fait, ont décidé d'occuper un bâtiment. Et pas n'importe lequel ils ont occupé. Ils occupent depuis donc, le 31 janvier 2018 le bâtiment A de l'Université de Saint-Denis, donc Paris 8. Moi je m'y suis rendue lundi dernier en début de journée. Alors il faisait froid, comme un peu comme aujourd'hui, mais il y avait un peu de soleil, etc. et tout. Et j'avoue qu'en fait, en arrivant sur place, il y a quand même quelque chose d'assez beau en fait et d'assez léger, parce qu'on voit ces personnes qui subissent tout ce que vient de décrire Lucie juste avant, qui en fait là se retrouvent au chaud et où en fait on investit complètement un bâtiment. Et donc du coup en fait on le voit tout de suite avec ce besoin de parler, d'écrire, de communiquer. On arrive, il y a toujours 3-4 langues écrites au mur qu'on va entendre par bribes, etc. Et je suis arrivée donc au réveil tranquillement et très vite en fait on a accès à la cuisine collective et on se retrouve un peu plongé au cœur de la vie du bâtiment. Et dans cette cuisine j'ai rencontré Asna. Et donc je lui ai posé 2-3 questions et en fait elle m'a raconté un peu l'ambiance là-bas. Donc on va l'écouter. Là, on est dans la cuisine. Grosso modo, il y a un peu de musique, il y a pas mal de gens qui s'activent autour. Et du coup, toi, apparemment, tu es là assez régulièrement et tu participes pas mal.
Le truc là, moi, c'est surtout par rapport au repas de midi. Parce que bon, le midi, il n'y a pas beaucoup de lève-tôt. Donc, c'est à peu près vers les coups de 9h-10h. Et puis bon, quand il y a des personnes qui se lèvent, ils viennent aider. Mais bon, on démarre déjà, tu vois, pour couper les légumes, enfin, les premières nécessités. Bon, la cuisine, voilà, quoi. Donc, c'est souvent des trucs, des oignons, tout ça. Des fois, bon, c'est des carottes, des pommes de terre, des légumes. Voilà, quoi. Donc, c'est un lieu qui, au niveau cuisine, c'est autogéré. Et on fait un appel aux dons, de trucs, des matières, voilà, consommables. On fait appel aux dons, et puis bon, les gens, ils nous emmènent. Ça peut être des dons de particuliers, comme ça peut être, bon, nous, enfin, comment dire, le collectif étudiants réfugiés ont une caisse et on vient puiser selon les besoins. Je parle cuisine, voilà. Il y a d'autres besoins. Et donc, après, bon, on, comment dire, on se prend la veille. On fait un espèce d'inventaire. Et puis, bon, voilà quoi. Et après, on donne la liste aux personnes qui s'occupent de la gestion. Et ils essayent. Des fois, c'est pas évident, mais ils essayent. Et il y a une autre page qui est tenue, voilà, sur... Parce qu'il y a eu un moment où, quand ils ont commencé ici, ils ont mis une place, voilà, une page Facebook, mais elle a été censurée.
Ah bon ?
Oui.
Et on sait par qui ?
Bah, À ton avis, déjà, un truc là-bas, là, on nous dit que cette occupation, c'est illégale, que, bon, on a eu un entretien avec la présidente, que, bon, on l'a pris de court, qu'elle n'était pas au courant de cette occupation, et que, voilà, elle nous disait qu'elle était humaine, mais que, voilà, on occupait des salles dont il y a des cours et tout, et qu'on, voilà, il y avait des gens qu'on gênait, que, bon, on prenait leur classe, et ben, voilà, quoi. Et donc, voilà.
Et donc, tu disais qu'il y a des lève tard, mais parce qu'il y a des gens qui dorment ici.
Les soutiens, bon, il y a pas mal qui rentrent chez eux. Donc, il y a un petit noyau dur et que, bon, ils restent ici. On surveille aussi c'est le lieu. Parce que vu que, bon, comment dire, c'est une occupation qui n'a pas été acceptée par la direction et la présidence. Donc, voilà, on ne sait pas. Donc, on maintient le lieu. Il y a une équipe et que, bon, ils surveillent. Voilà, c'est des trucs, c'est par roulement à peu près de 2 heures. Et on reste à côté les accès principaux, tels que cette porte, tels que aussi à l'étage et tout ça et tout. Donc on surveille quoi là, au cas où des vagues. C'est pas les gens, c'est pas les particuliers, on n'a pas peur de celui que. Voilà quoi. On a peur surtout des agents du désordre, c'est pas des agents de l'ordre. Voilà. Et c'est surtout ça.
Mais est-ce qu'il y a, là au niveau de la fac, vous avez été emmerdé par la sécurité de la fac
À ma connaissance, non. À ma connaissance, depuis tout le temps, hein, parce que, bon, comment dire, comment on a emmené les réfugiés ici, il y a eu d'abord un travail sur terrain, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de réfugiés qui sont sur le canal Saint-Martin, non, Saint-Denis. C'est entre Port de la Villette et Rosa Park. Et donc, il y a le collectif des étudiants qui sont venus pour, demander aux réfugiés, est-ce que vous voulez aller à l'université Paris 8 parce que, voilà, on va occuper. Il y a eu un repérage, déjà, avant de venir de demander aux soutiens qui sont sur terrain. Moi, je voudrais dire une chose qui est à mes yeux très importante. Les soutiens qui sont sur terrain, ils sont complètement bénévoles et soutiens, ils sont complètement zappés. On ne met pas la lumière sur ces personnes-là qui s'investissent sur le terrain. C'est-à-dire que quand on a des malades, on a des familles, on a des enfants, on a des mineurs, les personnes qui sont sur le terrain, c'est les alerteurs.
Et voilà. Là, tu parles de quand vous étiez
vers... à Port de la Chapelle, et surtout à Port de la Chapelle. Ouais. Donc, ce qui se passe à Port de la Chapelle, il y a des assos qui viennent donner à manger, d'accord ? Et une fois qu'on a fini de donner à manger, la police, les agents du désordre, viennent chasser.
Oui, au moment
voilà,
où
chasser,
le repas,
voilà, avec des propos, c'est une population qui ne comprend pas le français, donc ils ont tendance, parce que bon, il y a quelques personnes, quelques réfugiés qui comprennent l'anglais. Donc ils sont là à leur dire allez, go, ici Paris, voilà.
Ouais, style,
voilà. Donc c'est c'est pas voilà, il y a des propos qui sont à mon avis extrêmes dans les paroles. Et on a assisté à cette chasse indigne.
Et là, du coup, dans le bâtiment, donc vous êtes là depuis le 30 janvier, à peu près, l'occupation.
À peu près, oui, ouais. Oui, oui, à peu près. Et donc, alors, quand les étudiants, le collectif des étudiants, ils sont venus au canal Saint-Denis, donc, bon, on était sur place et c'était surtout pour faire la traduction et pour dire aux réfugiés que celui qui a envie d'aller à l'abri, et ben, voilà quoi. Et donc, on a fait une AG sur place, sous le pont, à Etoupin, et on a fait une AG sur place pour informer les personnes que, bon, voilà, pour ceux qui sont prêts à vouloir y aller. Donc, c'était un mardi matin. On a fixé rendez-vous vers les coups de 9, entre 9h et 10h. Donc, il y a des gens, bon, voilà, ils ont mis leur réveil pour pouvoir être là. Et pour que le matin, on emmène à peu près 5 personnes. Pour que ça ne fasse pas trop flagrant, quoi. Pour se faire le plus discret possible. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas, est-ce que la veille, quand on a fait l'AG, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui ont été répétées la police, à la préfecture, où. Donc ça fait qu'on a été, le projet d'emmener des personnes ici à l'université, le projet a été, je ne dis pas raté, mais presque raté, parce que le jour même, le matin même, il y a eu une évacuation. Voilà. Suite à l'évac, ben, ça a diminué. Donc, bon, voilà, on a emmené quelques-uns, à peu près une dizaine pour commencer. Et puis, au fil des jours, bon, voilà, on a emmené une dizaine. Et puis, bon, bah, là, ils sont à peu près 90, hein, à peu près.
Ouais, ouais. Je vais peut-être te laisser continuer à cuisiner.
Et donc, bah, c'est une cuisine autogérée. Et bon, voilà, comment on arrive à avoir les denrées, c'est des appels aux dons.
Ouais. Il y a des récupes aussi qui sont faites.
Oui, aussi, oui, il y a une équipe, voilà, une équipe qui fait la collecte au niveau des magasins, des invendus, au niveau des marchés pour les légumes, tout ça et tout. Et c'est surtout une solidarité citoyenne, des dons citoyens. Voilà. Et ici aussi, dans l'université, voilà, on a interpellé élèves, professeurs. Pour l'instant, les anti et les pro-occupations, c'est 50-50. Donc, l'idée, c'est d'aller faire la tournée des classes, dialoguer avec les élèves et les profs. Ceux qui sont un peu hésitants, ceux qui sont un peu dans le déni. Donc, c'est les réfugiés qui font la tournée des classes pour parler de leur situation. Pourquoi il est sorti de son pays? Qu'est-ce qu'il a subi? Tout son parcours dans le désert, en Libye, et surtout... Et la Libye, c'est pas d'aujourd'hui ce qui se passe en Libye. Depuis 2014, nous, on sait... C'est-à-dire, les réfugiés nous racontent ce qui se passe. Donc, c'est des viols d'enfants, c'est des raptes de personnes. Donc, on leur réclame une rançon, droit du sol. Je parle de la Libye, droit du sol.
Du coup, c'est une occupation pour demander la régularisation des papiers.
C'est des revendications.
Il y a aussi tout un travail d'information.
Voilà. Pour combien de temps on reste, je ne sais pas. Mais cette occupation, c'est pas le... Enfin, bon, le réfugié qui vient ici, on le met devant le fait accompli, que voilà, c'est pas qu'il va pas venir dormir, juste dormir. Et surtout, c'est pour vous, c'est pour, l'application des lois, l'application des droits, et pour la dignité humaine. Oh.
Voilà, donc ça c'était un peu les mots d'Asna en fait pour décrire l'endroit où on se trouvait. Donc on était dans la cuisine de Paris 8, donc le bâtiment du bâtiment A de Paris 8, l'université de Saint-Denis qui est occupée en ce moment donc par des exilés et des personnes en soutien qui les soutiennent dans leur lutte face à la répression auquel ils ont. Ils font face, oui, je dis deux fois face dans ma phrase, allons-y. Et on est ici, c'est les amis d'Orwell, et nous là, tout de suite maintenant, on est dans le studio et on n'est pas tout seul. Voilà, donc du coup, donc y a, comme on le disait tout à l'heure avant, il y a des personnes qui sont venues ici nous raconter un peu cette occupation. Donc on va commencer à dérouler deux, trois questions. Vous êtes plusieurs ici, donc on vous laissera le temps de parler. Première question, du coup, comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait, d'occuper un bâtiment de la fac de l'université de Paris 8?
Oui, bon, je vais vous répondre à cette question. Aujourd'hui, les gens ont l'image de dire qu'il y a des exilés qui s'occupent de Paris 8, mais sans se poser la question pourquoi ils sont arrivés là, je vois cette façon de faire qui n'est pas tellement logique. Nous sommes arrivés au sein des Paris 8 parce que nous étions dans des conditions déplorables.
Déplorables.
Je vais encore éclaircir ça. Nous étions livrés à nous-mêmes, on dormait à la rue, et on dormait sous la neige, nous étions torturés par la police, à chaque fois perturbés par plusieurs obstacles. En vue de ces conditions inacceptables, qui n'est pas du tout humain en vue de la politique en place, qui est très différente de celle dont on nous explique. Donc c'est à cette manière nous avons possédé par l'occupation des Paris 8 le fait de nous faire attendre par les autorités. D'un début, pour se faire attendre, il faut d'abord que tu sois hébergé ou logé pour pouvoir mettre les réflexions en place. Du coup, l'État puisse attendre et comment procéder pour y arriver. Donc voici un peu l'objectif principal de l'occupation des Paris 8.
Il y en a peut-être d'autres qui souhaitent compléter un peu. Ou raconter peut-être les premiers jours de l'occupation, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés dans ce groupe qui ont décidé à un moment donné de dire on en a marre d'être dans la rue et traités comme des chiens, parce que c'est ça quoi.
Donc nous, on est rentrés dans l'université et dès le début de l'occupation, on a commencé à faire des négociations avec la présidence. Elle nous a demandé pourquoi vous êtes là et quels sont vos buts dans le fait d'occuper l'université. Et donc nous, ce qu'on lui a expliqué, c'est que si on était là, c'était pour des raisons bien précises. Ces raisons, c'était le fait qu'on voulait tous avoir des papiers, qu'on voulait tous être logés, qu'on voulait avoir le droit d'étudier au sein de cette université, et qu'on était contre les déportations qui nous menaçaient. Et on est revenu avec elle sur les raisons qui ont fait qu'on était... On était là, et ces raisons-là, c'était qu'on vivait une situation très difficile dans la rue, qu'on était... tout le temps menacé par la police, et que cette situation, dans la mesure où il n'y avait personne qui était responsable de nous, occuper un lieu, ça permettait de faire en sorte à ce que des personnes endossent ou partagent avec nous notre responsabilité de nous-mêmes.
Oui, à un moment donné, mettre les gens face, enfin les institutions face à ce qu'ils engrainent en fait. Et oui, du coup, il y a aussi, donc ça, je l'avais pas forcément en tête. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais cette exigence directe faite à Paris 8 de pouvoir étudier en fait, parce que peut-être d'autres.
J'aimerais juste rajouter quelque chose. Quand tu es arrivé là-bas, certes, on a eu des difficultés. Mais on s'est donné la main et on a un but. Notre but, c'est pas pour créer problème à qui que ce soit. On veut juste assez qu'on nous rend ce qu'on appelle la justice. Parce que nous, on se pose la question, on se compte parmi les morts. Mais si Dieu nous a accordé la chance pour arriver là où on est arrivé, il faut qu'on fasse quelque chose. On nous dit, quand tu viens, il fallait demander l'asile. Et tu as le droit de demander l'asile dans n'importe quel pays où tu veux, en Europe. Mais on a l'impression que l'asile, là, c'est devenu l'Italie et la France. Parce que l'Italie te renvoie en France et la France te renvoie en Italie.
Oui, ça c'est la situation de ce qu'on appelle les Dublinés, c'est ça hein?
Ouais. Donc, on s'est dit quelque chose. De toute manière, on n'a pas le choix. Si on est dehors, nous sommes menacés. Si on nous loge, on nous vire dehors. Il y a une seule chose qui va nous rendre heureux dans notre vie, comme tout le monde, c'est le papier. Parce que nous, on veut vivre avec notre dignité.
Oui, ou en tout cas, le papier, c'est en gros, aujourd'hui, dans un monde qui fonctionne avec des États, c'est en gros une assurance que quelque part dans ce monde, tu peux vivre sans être chassé ou menacé par une autorité, en fait.
Ça, bon, c'est la question qu'on s'est posée. Ils peuvent te loger, même si on te loge avec Macron là-bas à la maison. Si tu n'as pas tes papiers, demain matin, ils vont te dire « sors de là ». Mais si tu as tes papiers, vous pouvez parler égal à égal. Ouais. Mais puisque nous, nous sommes fragiles déjà, ils savent qu'on n'a pas de papiers. Donc ce qu'ils vont décider, si on veut ou on ne veut pas, ça passe.
Et vous connaissiez un peu avant ou vous vous êtes rencontrés en arrivant en France ou comment ça s'est organisé en fait le groupe, comment il s'est constitué?
En fait, à cette question, j'y voulais un peu intervenir. Là, s'il en faut, après, le frère va ajouter quelque chose. Nous tenons toujours à rassurer à la communauté française que c'était de façon inégale. Aussi, des informations que chacun de nous recevait. Et d'ensemble, on migrait vers l'université ensemble, comme on a migré vers la France.
Et donc peut-être juste un tout petit point pour raconter un tout petit peu la façon dont l'occupation s'est préparée. Donc il y a eu des gens qui ont, pendant 2 mois avant le début de l'occupation, fait des maraudes dans les endroits à Paris où il y a des campements. Pour commencer à rencontrer des gens, voir qui serait chaud pour une occupation, parce qu'il y a c'est compliqué à mettre en place, il y a des risques, etc. Donc il y a des gens en plus, effectivement, comme il y a plein de gens qui n'ont pas du tout les mêmes informations ni même expérience, il y a des gens qui viennent d'arriver, il y a des gens qui sont dans la rue depuis 2 ans, donc c'est des expériences qui sont très différentes. Et du coup donc il y a eu ce travail de maraude et d'assemblée générale de rue aussi pour rencontrer des exilés et construire avec eux ce projet de d'occupation. Donc, il a abouti sur l'occupation de Paris 8, en fait.
اولا احنا وقت طلعنا من بلادنا طلعنا عندنا مشاكلنا الخاصه وجينا هنا بندور على الامان والامان لا يوجد في الشارع.
Donc nous on est parti de nos pays parce qu'on avait des problèmes là-bas et à la recherche de la sécurité, enfin pour pouvoir vivre en paix. Et on ne peut pas vivre en paix quand on dort dans la rue. Et donc il y a un groupe d'exilés qui s'est constitué durant ce travail dont je parlais tout à l'heure, de personnes qui ont des profils un peu différents. Il y avait des Dublinés, des gens qui sont déboutés de l'asile, des gens aussi qui ont des papiers mais qui dorment dans la rue. Donc on a décidé d'occuper Paris 8 avec le soutien des étudiants de Paris 8, enfin et des étudiants, d'autres étudiants d'ailleurs.
ايوه لقينا هذه الجامعه مكان مناسب ان واحد يقدر منا مهم طالب من حقوقه وهي عندنا حمايه من الشرطه لكن في الشارع ما نجد حمايه من الشرطه عشان كده حياتنا مهدده ممكن في اي لحظه واحد يمسكوك يسفروك ولا كده اذا قاعدين في الجامعه يعني بنقدر بنطالب وبنوصل قضيتنا لقدام.
Et donc le fait d'occuper une université ça donne une protection contre la police. Puisque en fait, alors que dans la rue, on est soumis à l'arbitraire policier en permanence, enfin oui, à ce que les flics veulent faire de nous en fait. Et alors que d'occuper une université avec ce que ça implique et de, du coup de l'obligation des différents usagers de l'université de se positionner, etc. Ça, ça permet une certaine protection par rapport à la police et du coup la possibilité de s'organiser pour présenter des revendications et former une lutte ensemble quoi.
عشان كده احنا شفنا ان المطالبه انسان بيطالب شخص لوحدك ما في طريقه بيجي فيها رفض كثير وفيها هنا احنا اذا كده قررنا لازم نكون جروب عشان نقوي صوتنا ونقدر نوصل للجهات العليا عشان نطلع حقنا منها.
Et donc on a décidé de justement plus procéder individuellement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait leur demande d'asile seuls et qu'il y a eu beaucoup de refus. Et du coup, nous on a décidé de constituer un groupe pour faire valoir collectivement nos revendications et de faire des demandes aussi collectives de papier.
ايوه انا دار اسال سؤال لماذا الحكومه الفرنسيه احنا تتعامل معنا كمجرمين احنا جينا لجوء هنا عندنا مشاكلنا الخاصه واسبابنا اللي طلعتنا هنا احنا جينا هنا لا مجرمين جينا طالبين الامان مفروض تتعامل معنا بانسانيه وبامن عشان واحد شنو يقدر يعيش حياه كريمه.
Et donc moi j'ai une question à poser, c'est pourquoi le gouvernement français nous traite nous migrants, réfugiés, exilés comme des criminels. Nous, on avait des problèmes dans nos pays, on est venu parce qu'on avait des problèmes et qu'on pouvait pas continuer à vivre là-bas. Donc on est venu pour vivre en sécurité et on arrive ici, on se retrouve traité comme des criminels et donc alors qu'on devrait être traité comme des humains et du coup voilà, je pose cette question, je me la pose à moi-même et je la pose à tout le monde.
Nous, là-dessus, on est assez d'accord, on la pose aussi et j'ai l'impression que en fait la poser ça suffit pas en fait et que clairement, enfin quand on voit les logiques qui sont mises en place et c'est aussi une longue histoire hein, de d'état d'impérialisme de décider un peu de qui a le droit ou pas d'avoir accès à tel ou tel bien, telle ou telle situation de vie, reconnaissance sociale, etc. Voilà, c'est ça, c'est l'état français qui décrète voilà. Donc peut-être d'autres ajouts.
الحاجة الثانية أنا شايف في بعض حتى المواطنين الفرنسيين ينظروا على اللاجئ نظرة خاصة فاللاجئ هو إنسان كائن حر مستقل يعني ممكن يعيش وممكن يمشي في أي حتة ويعيش عادي مع الناس.
Et en plus, deuxièmement, il y a une façon qui est parfois étrange dont les citoyens français regardent les migrants avec des yeux un peu écarquillés. Alors que nous, on peut vivre comme à peu près tout le monde, de la même manière que tout le monde.
حتى نحن داخل الجامعة يعني الجامعة في لاجي ممكن يكون عنده في بلده ممكن يكون عنده ماستر ومن حقه إنه مثلا يدرس في الجامعة ويكون طالب في الجامعة وهو بمثابة أستاذ في استراتيجيته أو في أكاديميته. ما مثلا خلاص هو لاجئ مجدوع في الشارع يعني ما له مكانة عند الناس لكن هو مرحلته التعليمية في مرحلة أستاذ هو لاجئ لكن لما يجي الوضع الأكاديمي حقه هو أستاذ.
Et parce que par exemple toujours dans cette façon dont on considère les migrants a priori, eh ben c'est possible qu'un exilé qui soit par exemple à Paris 8 ait le niveau master et qu'il ait un cursus académique qui lui permette d'être professeur, et contrairement à la façon dont on constitue ou dont on regarde des personnes, c'est pas parce qu'il est un migrant que c'est juste quelqu'un qui ne connaît rien et qui est incapable de quoi que ce soit, et c'est quelque chose à prendre en compte.
Peut-être par rapport à ça, je me dis la barrière de langue, parce que c'est quelque chose qui m'a assez frappée en fait d'en voir comment vous êtes organisé dans ce bâtiment une fois l'occupation lancée. Voilà, vous avez en effet du coup demandé à rencontrer la présidence, etc. Mais du coup, comme vous arriviez d'endroits, de lieux différents, avec du coup des langues différentes, peut-être parler de comment vous organisez là-dessus. Parce que c'est clairement la langue, en fait, le fait de ne pas comprendre l'autre, qu'on se dit qu'il est bête, alors que justement, en fait, je pense que ça fait partie des trucs, moi, qui m'ont frappé, en fait, de voir la capacité d'organisation et de dépasser les langues en étant sur place.
Non, vous savez, cette question, je peux encore revenir encore pour vous souligner. Le fait de la communication est un véritable problème. nous disposons des traducteurs qui sont capables de nous mettre en collaboration et nous sommes très confiants. Mais du coup, l'État aujourd'hui, certains nous parlent d'occupation d'inégalité de Paris 8, où on parle d'expulsion de l'exilés, où on traite d'une histoire migratoire. Au fait, à notre petite connaissance, c'est une politique qui est mise en place au niveau de l'Union européenne, sachant bien que vous ne pouvez pas atteindre la France ou l'Allemagne sans passer par l'Espagne ou l'Italie, où tu es obligé à prendre tes empreintes par la force. Et du coup, on prend tes empreintes, tu arrives en France ou en Allemagne, on t'expulse peut-être que tu as des empreintes dans ces pays, mais au comment ils t'expulsent, est-ce que l'État français ou allemand se font recours pour dire ces gens que nous expulsons vers les portes d'entrée de l'Europe, ils ont des hébergements là-bas? Est-ce que l'État où on les oriente prend acte de ces personnes qui arrivent? Ces questions ne sont pas traitées et du coup on vous expulse. Du coup tu résistes, tu es en poursuite ou on te rapatrie dans ton pays, ce qu'on appelle l'expulsion vers ton pays. Et un véritable problème se pose aujourd'hui entre l'Afrique et l'Europe. Nous ne comprenons pas effectivement la politique France-Afrique. Du coup, tu es peut-être un francophone, on le dit, ceux qui apprennent la langue française en Afrique, et tu arrives à la racine principale qui est la France. On te fait rêver que c'est terre d'espérance, le pays d'accueil, et du coup tu arrives, tu es livré à des conditions déplorantes qui rendent nos camarades fous, qui perdent la dignité après avoir traversé le désert, les tortues de Libye, la Méditerranée. Vous tombez dans vos pays de rêve et c'est là que vous vous retrouvez au point de départ. En quoi est-ce que c'est ce phénomène de migration? Pourquoi traiter l'être humain des migrants? Et ce phénomène de migration est devenu une mode pour l'Europe aujourd'hui, où s'enrichit encore sur le dos des migrants. À chaque fois, c'est les Africains qui sont maltraités. Un peu, c'est à cette politique que nous dénonçons. Pourquoi parler de l'expulsion de l'exilé? Pourquoi parler de Dublin de l'exilé? Pourquoi parler de la procédure accélérée de Dublin, sachant bien celui qui se déplace son pays n'a aucun moyen pour suivre cette procédure, n'a aucun docteur pour pouvoir avoir un avocat ou quoi que ce soit, et du coup, tu es bien dans ton pays? À quoi sert cette politique? Nous sommes ici, à la radio, pour un peu dénoncer cette façon de faire qu'on trouve qui est un peu injuste, qui est illégale. Et du fait qu'on occupe au Paris 8, c'est de se faire attendre par des autorités, par des citoyens. Au fait, arrivé au Paris 8, nous avons vu l'humanité du peuple français, du fait que nous sommes hébergés et nous ne sommes pas expulsés. On nous apporte des vies, on a des soutiens des professeurs, de certaines personnes qui nous soutiennent, qui est contrairement à celle du gouvernement. Donc on a eu l'impression qu'entre le gouvernement et la population, il y a une grande différence. Du coup, nous faisons appel à ce gouvernement actuel en place de revoir cette politique qui dénigre l'être humain, qui dénigre le noir de toutes les façons, qui perd sa dignité, qui ne lui donne aucune notion de vivre, de revoir quoi cette méthode de faire. Donc c'est à ce sujet, nous sommes ici aujourd'hui, comme on l'appelle, à la radio Liberté, qui nous donne l'occasion de s'exprimer, et j'en profite par ce micro pour lancer l'appel encore à toute autorité française qui est touchée par ce signe migratoire, qui est touchée par ce phénomène migratoire où il voit son proche humain dénigré de façon peut-être que la politique mise en place, où des lois sont votées, peut-être on dira de la loi 90, de 1992, où certains articles appliqueront si des migrants, où on te met sur les procédures accélérées. Quel est ce phénomène? Au clair qu'ils expliquent la réalité aux Noirs, s'il s'agit d'un phénomène de couper le cordon France-Afrique, nous ne le savons pas, mais qui explique réellement ce qu'il en veut du Noir. Sinon, nous sommes fatigués, on en a marre. Aujourd'hui, après toutes ces traversées, on tombe dans des circonstances déplorantes. Ça, c'est cette politique, nous dénonçons. Donc, à votre...
Vous êtes arrivé dans un endroit où clairement sur les mêmes positions, et il y en a qui parlent de racisme d'État et voilà, enfin c'est clairement ça, c'est-à-dire que du coup le bouc émissaire du migrant est utilisé par les médias, l'État, et qui du coup va mettre en place tout un appareil judiciaire, et on l'a vu aussi avec donc cette nouvelle loi et puis les différentes situations administratives dans lesquelles ils vont mettre l'État va mettre la personne immigrée en fait qui arrive en fait et qui demande l'asile, qui demande un peu un refuge, et du coup on a entendu parler en fait des Dublinés Je crois que j'avais entendu dire qu'il y avait certaines personnes dans le bâtiment qui étaient assignées à résidence. Peut-être il y en a certains qui peuvent en parler ou pas, ou raconter aussi qu'est-ce que c'est dans votre quotidien en fait ça.
Juste, je voulais dire juste une toute petite chose sur l'assignation à résidence qui rebondissait sur ce que vous disiez tout à l'heure. Quand je suis allée à Paris 8, je me suis rendu compte, et ça pose vraiment question, qu'il y avait des personnes qui étaient à Paris 8 et pourtant, à la base, elles avaient un logement. Simplement, elles étaient ce qu'on appelle hébergées dans un centre d'hébergement d'urgence. Mais en fait, elles étaient assignées dans ce centre d'hébergement d'urgence. Et du coup, elles perdaient toute confiance dans le personnel de ce centre et elles préféraient quitter leur lit et quitter un semblant de stabilité parce qu'elles avaient trop peur finalement que la police vienne les chercher dans le centre d'hébergement d'urgence et les expulse. Et en fait, c'est vraiment ce qu'a posé la circulaire dont tu parlais tout à l'heure, Jet, la circulaire Colomb de fin décembre 2017. C'est cette idée que maintenant les gens de l'OFI, sans aucun mandat, sans aucune base légale, peuvent venir dans les centres d'hébergement pour recenser qui est Dublin, qui est plus Dublin, qui est en fuite, qui est demandeur d'asile, qui, et donc faire des listes comme ça pour justement mieux expulser. Et je voulais juste faire ce petit point sur la circulaire Colomb parce que j'ai été étonnée aussi de voir qu'il y avait en fait beaucoup de gens qui préféraient vivre dans des squats ou vivre à la rue plutôt que d'être dans ces pseudo-centres d'hébergement d'urgence parce que finalement c'était plus les exposer pour eux.
Oui, il y a en gros les centres d'hébergement d'urgence qui seraient des espèces de prison édulcorée, parce que du coup il y a une obligation à être présent, il y a mais après il y a aussi du coup peut-être aussi la notion de d'autonomie en fait. Est-ce que, enfin, moi j'ai entendu dire que du coup les gens quand ils vivent là-bas on leur sert leur repas et il y a aussi peut-être alors peut-être du coup c'est pas le cas et je veux bien
j'aimerais bien compléter ce que tu viens de dire. Tout à coup, on te dit, toi, tu es chez toi, on te fixe l'air. On te dit, ça commence à 12h, ça finit à 13h. Tu viens à 13h, 2 minutes, tu ne manges pas. C'est clair et net. Et tout à coup, on te dit, tu es chez toi, tu ne peux pas recevoir n'importe qui que chez toi. Si tu veux le recevoir, il faut le recevoir dehors.
Si tu veux recevoir, en fait, en gros, tu ne peux pas inviter des gens chez toi.
Non, personne.
Non, mais tu n'es pas chez toi, du coup.
Et ils te disent que toi, tu es chez toi.
Ouais.
Mais tout à coup, une fois que tu es chez toi, tu ne peux pas faire venir qui que ce soit. C'est la question que moi je me pose. C'est une manière de nous faire comprendre que nous sommes bêtes, ou bien c'est une manière de nous faire comprendre que l'autre, on vous aide.
Oui, c'est d'infantiliser.
En tout cas, moi, tout simplement, j'aimerais dire tout simplement quelque chose. Et mon message, je m'adresse directement à Emmanuel Macron, s'il va écouter, s'il va chercher à écouter.
Si Emmanuel Macron, si tu nous écoutes, Radio Libertaire.
Parce que le vendredi soir, t'es sur Radio Libertaire. Coucou Manu.
Il y a des gens qui écoutent pour lui.
Ouais.
Parce que moi, je suis parmi les gens où je vois que Emmanuel Macron a bien parlé, il a beau parler dans tous ses discours. Mais à la fin, on s'est rendu compte que Marine Le Pen est carrément mieux que lui. Parce qu'elle a été honnête envers nous. Elle nous a dit honnêtement qu'elle n'a pas besoin de nous en France. Qu'elle va nous faire rentrer chez nous. Mais Emmanuel Macron, il a beau parler, il a beau mentir. Tout ce qu'il a préparé pour nous c'est déjà fini, mais ce n'est pas encore fini. Donc, si il est réellement conscient de ce qu'il fait, la question que moi je me pose, si tu as des enfants, peut-être que tu sauras. Que ça fait mal ou ça ne fait pas mal. Mais nous, on aimerait te dire une chose et tu vas garder ça pour toi. Et n'oublie pas un jour, si on n'accède pas au Parlement, même peut-être, Inch'Allah, nos enfants vont quand même accéder un jour là-bas. Ce que tu nous fais payer aujourd'hui, on l'assume. On n'a pas peur. Parce qu'on a quand même traversé beaucoup de routes pour arriver là où nous sommes là. Mais on sait que nous, on a notre place en France ici. Mais toi, tu ne vas pas rester éternellement. Un jour, tu vas quand même quitter là. Nous, on sait qu'on va avoir nos postes là quelque part un jour. Même si nous, on ne le trouve pas, on sait qu'on aura des enfants dans l'avenir qui vont quand même avoir cette place-là. Et j'aimerais juste te faire comprendre que tu le veux ou tu ne veux pas, la France, c'est chez nous et on va rester. Parce que tu ne vas pas me dire que moi, je suis parmi les gens où je parle français, tu ne vas pas me dire de rester en Italie, c'est faux. Je vais venir là où moi je me sens à l'aise. Parce que à chaque fois quand tu viens là-bas chez nous, en Afrique, tu nous fais croire qu'il y a la justice, qu'il y a le droit de l'homme, Mais où est le droit où toi tu parles à l'Afrique? Tu chantes à chaque fois. Parce que je vois aucune différence entre toi et ceux qui sont quand même là-bas. Parce que si toi tu nous parles de la justice ici en France, nous on ne voit même pas la justice. Parce que tu es prêt à nous faire arrêter pendant 135 jours pour rien. Et il y a certains qui vont se faire, fermer 90 jours pour rien. Et pendant ton campagne, tu es le premier à crier « Je veux vous aider. » Dis donc, au moins, si tu te réveilles le matin, il faut te murer et puis pose-toi toi la question. Est-ce que ce que je fais est juste ou bien c'est pas quand même juste? Sinon, à part ça, nous, ce qu'on a à te dire, tu vas faire tes lois. Maintenant, on va essayer de se défendre. On n'a pas le choix.
Merci.
Merci, ouais. Ouais, vraiment, ça s'applaudit. Et on espère qu'il va se les poser, ces questions. Et même s'il ne se les pose pas, on fera en sorte qu'elles soient entendues. Ouais. Du coup, en parlant d'être entendu, donc vous occupez la fac depuis 3-4 semaines maintenant, presque. Vous avez rencontré un peu la direction, les autres, enfin en gros les autres étudiants, etc. et tout. Comment en fait la communication ou les échanges avec le reste des personnes que vous croisez de la fac se passent?
Bon, c'est frère, le camarade va intervenir sur ce sujet. Voilà, tu es.
احنا قاعدين نلاقي الرئيسة والطلاب الكوليكتيف بتاع الجامعة بنلاقي الرئيسة في قاعة معينة وكان حوارنا معها في إطار موضوع معين اللي هو كيف إنه نلاقي البرفكتور وكيف إنه نلاقي الأوبرا وكيف إنه تقوم تعمل لنا رانديفو مع الأوبرا.
Donc nous, on a eu plein de rapports avec la présidente, avec les étudiants, avec différents collectifs présents au sein de l'université. Mais les discussions qui ont eu lieu avec la présidente étaient concentrées sur des points spécifiques qui étaient comment pouvoir accéder à la préfecture et à l'OFPRA, comment pouvoir obtenir un rendez-vous avec ces institutions.
فكم دائما بنتناقش فإنه هي ممكن تقول لنا تحدثنا في مواضيع معينة مثلا تقول لنا أنا بوحدي أنا كمديرة بتاع الجامعة ومسؤولة من 22 ألف طالب داخل الجامعة فاضطرينا نحن قلنا نحن ذاته اعتبرينا من ضمن الطلاب اللي بيدرسوا في الجامعة وحاول يحل إشكالنا بنفس الطريقة اللي تسير بها طلابك في الجامعة.
Alors, dans la mesure où elle nous expliquait qu'elle ne pouvait rien faire parce qu'elle était responsable de 22 000 étudiants et que c'était ça son travail, on lui a demandé de nous traiter comme des étudiants parce qu'on était prêts à être étudiants à l'université de manière à pouvoir...
Bien vu.
Sauf qu'elle ne s'occupe pas vraiment des 1500 étudiants sans papier de l'université, mais bon.
C'est vrai. Pas de
في النهاية بدينا نصل لمراحل معينة معه إنه نقوم نتفق لموضوع معين وتقوم مثلا هي دائما بترفض لكن نحن بنجبرها وألزمناها إنه لازم يكون في هنالك حلول منطقية يعني على سبيل المثال تقول لنا إنه هي دي جامعة أو محل العلم قلنا لا نحن ذاته كطلاب ما راضين إنه مثلا نقوم نأخر الطلاب ما يدرسوا وما نوقفهم عن دراستهم لكن نحن أسبابنا واضحة ومواضيعنا واضحة فحل منطقي سريع يخلي الجامعة مستمرة ونحن بنكون مرتاحين نفسيا يعني نكون حققنا أهدافنا.
Et en fait, nous, elle n'arrêtait pas de nous dire, voilà, vous perturbez le fonctionnement de l'université, il y a le planning des salles qui est décalé, toutes les choses-là. Et nous, on lui a expliqué que on n'a vraiment pas du tout envie de perturber le fonctionnement de l'université, on s'organise même pour. Mais que, justement, il importe de trouver une solution rapide, logique et plaisante pour tout le monde, pour que on puisse ne plus perturber le fonctionnement de l'université et que on puisse être reposé psychologiquement du fait d'une solution positive à nos demandes.
انا والله من هنا بحيي خايدة طلاب جامعة باري سويت ان كانوا معنا او مع الذين يخافون معنا صفا والذين لا يخافون فهنالك موقف انساني كبير جدا انا ما لقيته الا في داخل الجامعه ومن الطلاب على وجه الخصوص.
Et du coup, moi, je tiens à souligner le fait que il y a des gens qui ont été dès le départ avec nous, des gens qui nous ont rejoints, des gens qui sont moins avec nous. Mais ce que j'ai ressenti en termes de solidarité à Paris 8, c'était particulièrement fort. Et ce que j'ai trouvé là en termes de solidarité, je l'ai pas trouvé ailleurs.
تمام نحن ممكن دايرين نعرف السبب ان السبب هو دبلن دخل الاتحاد الاوروبي لكي ينظم الناس يعرفوا هذا من اي بلد جيتوا عبرت باي بلد لكن للاسف الحكومه الفرنسيه قاعده بتستخدمه كسلاح كتجاره يعني.
Et donc, bon, c'était, je voulais revenir un peu sur le système de Dublin qui en fait est le système de répartition au niveau européen. Et le problème, c'est que de répartition des exilés au niveau européen, normalement des demandeurs d'asile. Et le problème, c'est que l'État français utilise le règlement de Dublin comme une arme contre une arme commerciale.
نحن نطلب من الحكومة أن تنظر إلى هذه القضية لأن القضية بسببها عندنا كثير شباب. في المستشفيات جاتهم حالات نفسية بسبب إنه يقول لك ترجع إيطاليا ولا ترجع البلد اللي أنت في عندك دبلوم.
Et donc on demande à l'État français et au gouvernement de vraiment reconsidérer ce problème parce qu'il y a beaucoup d'entre nous et des jeunes qui ont des problèmes psychologiques graves qui ont été internés dans un hôpital, qui se sont suicidés parce que on leur a dit qu'il fallait qu'ils retournent en Italie ou dans n'importe quel autre pays où ils ont été dublinés.
ونحن سبب وصولنا إلى الجامعة هو أن دارين نغيروا قرار دبلوم هذا لأن القرار دبلوم تعب الناس نفسيا ولسه بيزيد وتعبنا أكثر.
Et donc nous on occupe Paris 8 aussi pour se mobiliser contre le règlement de Dublin parce que c'est un règlement qui met les gens dans des situations qui sont très difficiles et qui est une attaque aussi aux nerfs et à l'état psychologique des gens en fait qui met les gens dans des situations psychologiques très très difficiles et du coup on se mobilise contre ça.
C'est le risque d'être attrapé à n'importe quel moment
ah ouais ممكن تتمسك على طول في محطة المترو تتمسك وإذا قاعد في الشارع تتمسك.
Tu peux te faire arrêter si tu es dans une station de métro, que tu prends le métro, ou dans la rue, ou n'importe où en fait.
Mais ça c'est pour tout le monde.
Il y a une chose d'autre. يقول لك توقع في مركز لمدة 45 يوم ولا 50 يوم بعد ما تم التوقيع هذا يمسكوك يحجزوك في محل معين وبعد ذاك يتم ترحيلك.
Et aussi parce que il y a aussi des situations où on doit aller signer pendant 45 ou 50 jours à soit tous les deux jours, soit tous les trois jours, soit tous les jours, ça dépend de des situations et où ensuite on t'attrape et on t'expulse de force en fait.
المفروض قبل الفترة اللي تدوك لها وجرجروا بيك 45 يوم ماشي وجاي ماشي وجاي ما يحلوا لك مشكلتك المفروض كمان يسفروا قبل ما يدوك المواعيد اللي هناي دي عشان تكون التجنو ما صرفت وقت في التوقيع وفي الحاجة ساكت في النهاية تطلع لك حاجة فاضية.
Et donc en plus nous on préférait à la limite être expulsé direct au lieu d'attendre encore 45 jours que peut-être on soit expulsé ou peut-être pas etc. et que tout le monde en fait perd un temps infini dans toutes ces procédures aussi parce que voilà on attend 45 jours ou 50 jours pour expulser des gens alors que ça aurait pu être plus rapide éventuellement et régler le problème et puis après on serait revenu autrement enfin.
هم بحددونا بالسفر لإيطاليا احنا نقول لهم جينا من أفريقيا عبرنا الصحراء وعبرنا البحر إذا ودونا إيطاليا 100 مرة هنجي ودونا الليلة بكرة الصبح يلقونا جوا هنا.
Et donc eux ils nous menacent de nous expulser en Italie mais nous on voudrait leur expliquer que on a traversé désert méditerranée etc pour venir et que en fait de partir en Italie ça nous fait pas peur et que on reviendra 100 fois si on est expulsé en Italie que ça c'est pas un problème pour nous.
On arrive un peu à la fin de l'émission du coup mais vas-y Ousmane, tu voulais...
Non, c'est peut-être mieux finir sur une note positive, mais c'était juste sur cette question qui commence à émerger. Là, je parle plutôt en tant que membre d'un collectif. La question de la violence psychologique, outre qu'elle commence vraiment à être documentée, je pense notamment au centre Minkowska et au centre Primo Levi qui ont dit de concert que l'accueil à la française aggrave les traumatismes psychologiques, voire en crée de nouveaux. C'est pas les refus OFPRA, les mots qui reviennent en arabe quand on parle de l'administration, c'est torture blanche, mort lente, ce genre de choses-là. Il y a maintenant 4 jours, une femme marocaine qui en CRA a fait une tentative de suicide. Elle est en ce moment à Charcot, dans le coma. On a suivi énormément de cas de personnes qui tendent à nous donner l'impression que le suicide est vraiment en train de devenir quelque chose qui relève de la communauté d'expérience pour beaucoup de personnes qui sont de personnes exilées ici, c'est-à-dire que c'est plus un phénomène marginal.
Ouais.
Et donc c'est aussi quelque chose qui justifie d'abord le courage des personnes exilées qui luttent et la détermination de la solidarité. Voilà.
Je voulais ajouter un tout petit truc, est-ce que c'est possible? Je voulais juste dire par rapport à Dublin, pour moi c'est 85 à 90% du contentieux que je fais tous les jours, et ce qui est horrible dans ce règlement, c'est qu'en fait on ne parle que de procédure, et à chaque fois que je reçois les gens, je suis obligée de leur dire je sais, j'imagine à quel point tout ce que vous avez vécu c'est dur, et j'ai envie de prendre le temps de vous écouter là-dessus, mais le juge lui, il s'en fiche, et c'est pas ça qui va être dit, et donc je préfère vous le dire dès maintenant pour pas que vous ayez de frustration ou d'attente. On ne va parler que de procédures. Et oui, des Dublin, on en gagne, ça arrive, mais que sur des choses qui n'ont aucun sens. Et donc, vous avez des personnes qui parfois se retrouvent. Moi, j'ai des personnes, ça fait 4 ans qu'elles sont en procédure Dublin, et qui, à aucun moment, dans tous les pays dans lesquels elles sont passées, n'ont dit à quelqu'un pourquoi elles avaient fui leur pays. Donc, ça n'a aucun sens.
Peut-être du coup, et pour finir sur en effet un truc un peu plus positif, je crois c'est tout à l'heure tu disais au tout début de dire qu'en gros il y avait dans cette occupation aussi le besoin de trouver des endroits pour mettre les réflexions en place, en fait, parce que quand on vit dans la rue on peut pas s'organiser, etc. et tout, et du coup par rapport à ça vous avez l'occupation à Saint-Denis, elle se passe comment aujourd'hui, vous avez quelle perspective, et en gros comment est-ce qu'on peut venir aussi à un moment donné vous soutenir, ou peut-être est-ce que vous appelez aussi à d'autres personnes qui sont dans des situations comme les vôtres de vous rejoindre, etc. et tout. Enfin voilà. Si...
Fini. Nous, dans l'ensemble, nous sommes bien logés et nous avons confirmé à plusieurs reprises, nous ne partirons pas de l'endroit sans que l'État ne fasse à notre problème. Du coup, on nous parle des organisations ici. Au fait, ce phénomène a ses effets négatifs et ses effets positifs. Du coup, l'État réfute les actions. En même temps, il y a des organisations qui se créent autour de vous, qui se font peut-être les moyens pour pouvoir mieux vivre. Ou encore, on a l'impression que certains en profitent de ces actes pour se faire des sous. Nous n'en cherchons pas à comprendre à l'intérieur, mais nous faisons appel simplement à l'autorité, qu'il change la politique, qu'il prenne conscience de la vie humaine. Quand on parle des droits de l'homme, quand on parle de, comment on appelle, disons, un pays d'accueil, quand on parle du lien France-Afrique, au fait, il y a deux notions qui sont faites dans le monde, telles que le Coran et la Bible. Ce n'est pas celui de la même manière.
Du coup,
ils écrivent les lois et ils les appliquent contrairement. On a l'impression qu'on lit la Bible à la place du Coran. Et c'est cette manière de faire. Nous dénonçons, nous ne sommes pas d'accord. Nous disons aux juges ou les hommes juridiques qui appliquent ces codes, qui évoquent ces lois, puissent donner la moindre des choses aux différentes structures de mieux les appliquer. Il ne faudrait pas que ces lois soient appliquées contrairement à celles qui a écrit dans les affiches.
Et on peut venir vous voir à Paris
8 ? Oui, absolument, je suis toujours prêt. Moi, je suis prêt pour répondre à toutes les questions.
Voilà, c'est le bâtiment A, et aujourd'hui, tout le monde peut rentrer dans la fac.
Tout le monde dans la fac. On a des gens qui viennent d'interviser, on a des médecins, on a les signes d'humanité, certaines personnes. Voilà, donc du coup, nous sollicitons un peu la population française, mais pas le gouvernement.
Comment je voulais ajouter quelque chose, si vous me permettez.
2 minutes.
Ok, pas de problème. Je devrais avoir dit merci.
شكراً لراديو ليبرتي لإتاحة الفرصة لكي نحكم مشكلتنا.
Allons-y tout le monde ensemble. Merci.
Et ça nous va droit au cœur. C'est pas pour nous donner un truc ou c'est pas nous rendre heureux, mais pour nous, peut-être vous allez dire que vous avez rien fait, mais en tout cas, ça nous va droit au cœur. Et tout le monde est le bienvenu. Et on espère un jour que tout le monde sera quand même heureux.
Ouais. Alors moi, j'espère que, en fait,
نحن في نهاية المطاف لما توخى الزمن لكن نحن معلوماتنا الخارجية ننظم مظاهرة كبيرة جدا ونجيف صف واحد كلنا أصلا واقفين صف لكن هنجيف صف واحد ونجيف قدام البرفكتور ونوصل رسالتنا لقضيتنا إن شاء الله
par rapport aux perspectives et pour pas perdre beaucoup de temps, je tiens à dire que nous, on est déjà particulièrement unis, mais qu'on sera encore plus unis dans l'avenir et très prochainement dans le cadre d'une manifestation devant la préfecture à laquelle on convie un maximum de personnes.
Donc la préfecture de Paris, de Saint-Denis.
Ce sera à pile ou face.
À pile ou face. Est-ce que vous avez
précisé sous
peu. Ce sera précisé sous peu, etc. Et donc, du coup, on peut se rendre sur place. Tous ces rendez-vous, ils seront annoncés où est-ce
sur la page Facebook, les exilés occupent Paris 8.
D'accord.
Ce sera relayé aussi partout, hein, je pense, sur Démosphère, sur Paris 8. Nous, notre collectif relayera aussi partout.
D'accord. Très bien. Et ben, en tout cas, on vous souhaite de pouvoir. Enfin, tout ça, ça amène des choses. Et en tout cas. Ça va être
merci à toutes les personnes qui sont dans les coulisses de la radio qui n'ont pas pu parler.
Et à beaucoup, beaucoup de gens. On va avoir du mal à finir cette émission sans frustration. Mais en vrai, on espère que vous trouverez d'autres endroits et, pour raconter tout ça et faire entendre tout ça.
On reviendra.
Voilà. Et nous, on va juste se quitter avec un petit rappel. Nous, on vous donne.
On sera toujours ici dans votre radio, ici, Radio Solidarité, pour mieux s'expliquer encore.
C'est vrai. Ouais.
اوكي
في الخطاب نحن نقول للحكومة الفرنسية مهما كنت عنيدة نحن هنكون بالصبر اقوى منك وان شاء الله هننتصر
et on voudrait dire au gouvernement français que quelle que soit son obstination nous on sera plus patient que lui et donc on sera plus fort.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة ونشكر النصر في الاستوديو ان شاء الله.
Merci à toutes les personnes qui nous ont donné la parole et j'espère qu'on pourra se revoir dans d'autres conditions.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Il est l'heure, fini l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi mais tu vas te faire balancer. Défonce. Mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire
ta fête.
Ta mère veut te la faire aussi
ta fête.
Je voudrais te faire
ta fête.
Tout le monde te fera aussi
ta
Du moins c'est ce qu'ils disent, ils parlent trop. C'est pourquoi tes oreilles sifflent. À qui la faute? C'est la faute à autrui, hein? C'est les autres. Toi tu n'as qu'une seule envie.
Tu aimerais faire.